France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Je suis William Christie, je suis né le 19 décembre 1944 dans la ville de Buffalo et je suis chef d'orchestre.
William Christie, on en arrive donc à la création des Affleurissants en 1979. Je note une date, le 23 avril, premier concert, 1979. C'est pas encore les Affleurissants, d'ailleurs, c'est déjà un concert Marc-Antoine Charpentier. Et les Affleurissants sont au programme, mais l'ensemble s'appelle Ensemble Vocal d'Île-de-France.
Non, Ensemble Vocal Instrumental Baroque de l'Île-de-France.
Ouais, c'est ça.
Ben, c'est une grande bouchée.
Alors, comment s'était fait ceci? Ben, entre autres, avec la collaboration, la rencontre de Philippe Bossan. Il faut que vous nous racontiez aussi cette rencontre avec Philippe, qui s'est fait pas loin de Radio France, je crois.
Bon, Radio France a joué un rôle capital. Est-ce que j'aurais pu faire mon ensemble sans l'encouragement de quelques producteurs? Non, c'est évident. Il y avait un enthousiaste, absolument, mais exaspérant par moments, qui s'appelait Jacques Merlet. Jacques qui était vraiment le... Oh là 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 là, enfin le, notre fidèle compagnon. Et un homme absolument mais imprévisible, enfin, les humeurs, enfin, un moment épouvantable, les bouffées de colère, invraisemblables aussi. Ah, mais un homme indispensable. Il y avait Alain Duchambure. À l'époque, il y avait Philippe, il est Bossan, qui était plutôt une sorte d'électron libre, hein, qui pouvait effectivement réunir les différents genres. Il écrivait, il animait les stages, et il avait une espèce de passion dévorante pour la musique ancienne. Et puis, il y avait des rares fonctionnaires, comme Bertil Léoncourt. Mais si la radio était là pour nous promouvoir, c'était merveilleux.
Et donc la rencontre avec Philippe Bossan au Café des Ondes.
Philippe est devenu un incontournable pour nous. Il a reconnu, d'abord c'était l'idée de Philippe qu'il fallait tout simplement réagir par rapport à ce qui est en train de se passer en Angleterre, en Hollande, la France était en retard. Nous avons un patrimoine extraordinaire et voilà, la Chapelle Royale était en effet organisée par Philippe Bossan. Mais en tout cas, tout ça c'était grâce à Philippe Bossan et il a réussi.
Qui a proposé entre les deux que vous fassiez un ensemble à votre main? C'est vous ou c'est lui?
Oh, ben c'est vrai que je me souviens, j'ai parlé avec Philippe et j'ai dit, Philippe, il est grand temps que je vole avec mes propres ailes. Et j'ai dit, le temps est fortuit, puisque j'ai des jeunes collègues, c'était pas une question d'élèves, mais des collègues comme Bouffi, comme Dominique Wyss, comme Yvon Repérant, comme Elisabeth Matifa. J'ai dit, mais et ils veulent tout simplement faire quelque chose ensemble. Et je crois, peut-être la personne qui peut peut-être le faire. En tout cas, je suis prête à le faire. Et c'était très simple. Enfin, j'ai dit, mais écoute, nous sommes là pour tout simplement perturber et exciter. On voulait aussi remettre en valeur des petits maîtres. Et Dominique et moi, on a passé des semaines entières à la BN. C'est fabuleux, mais fabuleux, n'est-ce pas? Et puis, on voulait aussi remettre en question, pourquoi est-ce qu'on joue et chante Monteverdi de cette façon si insipide? Donc voilà, c'est... Et on avait un compositeur, de choix, qui était Charpentier au début. Et qui reste, effectivement, quelqu'un de terrible important.
Thank you.
Vous savez, là aussi, ce qui est merveilleux, fait, dans les années 70, c'est-à-dire fait, la première décennie fait, de mon installation en Europe, c'est que on était forcément des nomades. Et on faisait partie de ce milieu de musique ancienne, certes, mais musique contemporaine. Ça nécessitait de voyager. Donc, j'avais mes points d'attache à Amsterdam, avec le l'entourage de Leonard et compagnie. Il y avait aussi, enfin, n'est-ce pas, grâce au concert vocal, les frères Kerken, Conrad Junghenel, les Nordiques. Okay, voilà, c'est ça. Mais il y avait également, enfin, cet extraordinaire, je dirais, rapport avec les États-Unis et l'Angleterre. L'Angleterre, bon, ils avaient leur façon, enfin, de faire la musique ancienne. Bon, on peut critiquer maintenant, peut-être, mais il y avait des pionniers. Moi, j'adorais effectivement jouer avec les chanteurs britanniques, notamment Emma Kirkby, Nigel Rogers, Monteverdi, et aussi de faire partie des ensembles, c'est-à-dire avec Chris ou avec Trevor Pinnock. On était en effet une sorte de, oui, des nomades qui voyageaient entre les capitales, comme ça. Tout le monde se connaît. Je me souviens, on était à Sainte en 74. Et j'avais loué une maison à Pisani, près de Sainte. Et du balcon de cette maison de location, j'ai pris une photo. On était peut-être une trentaine de personnes réunies pour une soirée chez moi. Alors, j'ai vu cette photo l'autre jour, c'est extravagant. Il y avait Tom Koopman et sa première femme. Il y avait Montserrat et Jordi. Il y avait René Jacobs et sa première femme. On était tous là. Enfin, je dirais, l'Europe baroque, grâce à Alain Paquet, le génial et incorrigible directeur de Festival de Sainte, mais c'était grâce à son génie.
Premières années des Affleurissants, William Christie, évidemment il y a tout un tas de choses qui se passent, des enregistrements, le partenariat avec Harmonia Mundi qui commence à se nouer assez rapidement, les premières tournées à l'étranger, il y a quand même un événement absolument incroyable, c'est en 1982, ça se passe au château de Versailles, il y a un G7 qui est en train de se dérouler là, François Mitterrand, donc il a puissance invitante pour la France, mais Donald Reagan est là, Margaret Thatcher, et pour clore en beauté, si j'ose dire, le G7, on organise une grande représentation des Affleurissants, de Marc-Antoine Charpentier, si je me souviens bien, c'était bien cette pièce-là, interprétée par vous, retransmise à la télévision et en mondiovision avec la voix de Léon Zitrone.
Oui.
Comment en 3 ans ça s'est fait, ça?
Peut-être que j'ai eu de la chance, mais la facilité de rencontre avec les responsables de la culture en France est étonnant. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'un certain Christian du Pavillon, qui était l'un des conseillers culturels pour la présidence Mitterrand. Et il me dit, je suis architecte, mais j'aime beaucoup la musique ancienne, je vous entends, oui, maintenant, ça me plaît. Et nous avons une idée. vous inviter pour la grande réunion, enfin, des chefs d'État qui aura lieu à Versailles. Est-ce que ça vous dit d'arriver avec votre ensemble?
Aussi simplement que ça.
En tout cas, c'est un événement extraordinaire. Enfin, c'est, ouais.
Est-ce que vous avez rencontré, je ne sais pas, Donald Reagan, votre compatriote, après tout?
Non, ma maman était là. Et maman, évidemment, elle est absolument. Mais, enfin, son regard était collé sur Madame et Monsieur Reagan. Oh, mais ce salaud, il a dormi, n'est-ce pas, pendant tout le spectacle. Et je me souviens que, bon, on était pris par les gorilles, n'est-ce pas, enfin, pour serrer la main, enfin, les différents chefs d'État. Alors, il y avait Pierre Trudeau et un très jeune Trudeau, son fils, qui est devenu maintenant le Premier ministre du Canada, qui parlait de cette musique. Ah, oh oui, vous savez, il y a du charpentier, n'est-ce pas, qu'ils ont trouvé au Canada, dans un couvent de bonnes sœurs françaises. Mais fascinant. Hein, un homme, il y avait Helmut Schmidt et sa femme, et elle voulait savoir à quel diapason, et oui, on ne peut pas imaginer. Et puis, Mitterrand, qui disait absolument rien. Voilà. Et puis, Reagan qui arrive, et il me serre la main en disant merci, merci beaucoup. Et Madame Nancy dit, darling, you can speak American, because he's American. He's the boy that directed the operetta. He's the boy, c'est le garçon qui a dirigé l'opérette. Oui. C'était merveilleux, ça.
France Musique, les grands entretiens de William Christie.
Décembre 86 à Florence, et puis en janvier de l'année suivante, 87 à Favart, à Tis, qui est un grand moment évidemment de l'histoire, on peut dire de la musique en France. Moi j'aimerais que vous me racontiez pour vous comment vous avez vécu cette expérience-là, cette œuvre-là, ce moment à Tis. Est-ce que vous avez eu conscience, vous, sur le moment de faire quelque chose qui allait à ce point marquer, ou est-ce que c'était dans la suite finalement du travail que vous faisiez depuis des années, entre autres avec Marc-Antoine Charpentier, et puis tout le travail sur l'éloquence et sur la musique et sur le théâtre français?
Nous, on était à Avignon, enfin, moi et Jean-Marie Villéger, en train de discuter laquelle est tragédie on pouvait monter. Donc la décision a été prise par nous deux. Et je voulais que ça soit une décision partagée parce que, en effet, c'est une œuvre littéraire, c'est Kino, c'est. J'avais aussi, je me souviens, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. J'ai dit qu'il y avait des points faibles, ce qui était vulnérable et ce qui rendait les quelques tentatives justement de faire revivre ces tragédies, c'était tout simplement le récitatif. Et j'ai dit, il nous faudrait, comme c'était le cas avec Pendant le vivant de Lully, d'exploiter effectivement la richesse du continent à l'italienne. Et j'ai dit, c'est ça qui va distinguer effectivement cette approche. Des gens comme l'Opéra de Paris, où il y avait une seule dame, enfin, j'oublie son nom, cette grande femme répétiteur de l'opéra dans les années 60-70.
Janine Rice.
Merci beaucoup. C'est ça qui va donner effectivement une richesse et une vivacité à ce qui est le plus essentiel, qui est la parole mise en musique. Et j'ai dit, après, il faut soigner surtout les danses. Et on a travaillé donc avec cette liste de must, de choses nécessaires, n'est-ce pas, d'ingrédients, voilà. Et Jean-Marie était fasciné par cela. Voilà. Et je me souviens, il disait, est-ce qu'on peut avoir une couleur ici, une texture un peu diaphane, un tout petit peu incertain? Je dis, mais oui, c'est tout à fait possible. Enfin, il y a deux luths, trois luths, un clavecin, il y a des instruments à hacher, enfin, dans le continuum. Évidemment, nous pouvons même imaginer, enfin, n'est-ce pas, un tremolo vers l'italienne dans les parts. Oui. Et j'avais des continuistes extraordinaires, enfin, et tout était improvisé, évidemment. Donc, on pouvait suivre les paroles, le sens de l'action, mais surtout le désir de quelqu'un qui était imprégné par le théâtre classique, c'est-à-dire Jean-Marie Béléger, et qui savait quels effets il voulait.
C'est marrant, vous m'en parlez plus finalement comme d'un travail qui serait celui de Jean-Marie Béléger, c'est-à-dire autour du théâtre, comme si la musique était presque un peu secondaire dans la manière même dont le spectacle a été conçu.
Mais c'est-à-dire que c'est lui qui menait non seulement le staging, n'est-ce pas, le blocking, mais aussi la musique. Alors, il était extraordinaire. Jean-Marie, pour qui j'ai une révérence, une vénération, il pouvait même déclamer en utilisant les tons, comme s'il chantait le texte. C'est génial, absolument génial.
Allons, allons, à vous les tous, si belle Madison. Allons, allons, à vous les tous, si belle Madison. Allons, allons, à vous les tous, si belle Madison.
Alors il y a des équipes d'Atis aussi, ça, on en a parlé beaucoup, maintes fois, tous les la nouvelle génération des musiciens futurs baroqueux, la deuxième génération si on veut, ils étaient tous là, que ce soit des chanteurs, des instrumentistes, de futurs chefs d'orchestre, Hugo Rennes, Marc Minkowski, Agnès Mellon, pour ne citer qu'eux, il y avait beaucoup d'autres.
Mais il a fallu, parce qu'en effet, on ne peut pas faire les versions, disons, pauvres, n'est-ce pas, d'une tragédie. Oui, ça se fait, mais c'est horrible. Nous sommes devant un Gesamtkunstwerk qui demande combien de gens. Enfin, c'est, s'il n'y a pas de budget adéquat, vaut mieux renoncer effectivement à la chose. C'est très simple. Et on avait un grand chœur, on avait un orchestre, on avait des solistes, on avait des danses. Et il a fallu, n'est-ce pas, recruter. Bon, le milieu était peut-être plus important en 87 que c'était à Paris en 70. Mais quand même, c'est ça l'explication de tous ces gens qui sont devenus les grandes personnalités par la suite. Oui.
C'est que simplement, il n'y avait pas grand monde, vous avez pris tous ceux qui étaient là.
Voilà, c'est ça.
C'est pas légendaire, enfin, ça le devient, du coup. Oui. Vous parlez des danses, il faut peut-être dire deux mots peut-être de Francine Lancelot aussi, qui a été absolument fondamentale, puisque vous disiez, c'est vous, il faut que la danse soit présente parce qu'elle est structurelle pour ce genre de pièce et pour la tragédie.
On ne pouvait pas faire cette œuvre sans elle. Elle a compris une chose, que ce n'était pas du tout quelque chose d'authentique. Et ça, j'avais des moments un peu inconfortables quand je lisais dans les critiques en France ou ailleurs. Mais voilà, c'est une recréation fidèle, n'est-ce pas, du théâtre du Louis XIVien. Pas du tout. Moi, je me souviens, c'est pas ça du tout, c'est post-moderne. Et Francine a compris cela. C'est-à-dire, il y avait des éléments très authentiques, une façon d'utiliser le corps et tout ça, mais il y avait des moments de haute fantaisie, n'est-ce pas? Et Francine était une dame protestante d'abord. Elle était rigoureuse, elle était parfois enquiquinante, trop sûre d'elle-même. J'avais des bagarres avec elle épouvantables. Danser un rigodon, voici le tempo. Je dis, mais Francine, il n'avait pas de métronome à l'époque. Elle était difficile. Mais, je dis difficile, mais indispensable.
Alors, artiste est très important, évidemment, parce que ça donne une audience, tout d'un coup, une visibilité aussi aux arts florissants, parce que le G7, c'était très bien, mais là, tout d'un coup, c'est autre chose. Et on a l'impression que tout d'un coup, avec ça, la France rattrape retard, parce qu'auparavant, vous nous racontiez bien, jusqu'à la fin des années 70, c'était les équipes du Nord, en quelque sorte, Léonard, Klekeuken, etc., qui, du côté musique instrumentale, ont mis en avant la musique ancienne. Là, tout d'un coup, il y a une sorte de, autour du baroque français, de nouvelles manières d'envisager même le concept même de musique ancienne, qui va passer par l'opéra, par le grand spectacle, donc trouver un public beaucoup plus large.
Il y a beaucoup à dire là, oui. Dans tous les pays, c'est curieux. En Angleterre, c'était le chant qui a démarré, effectivement, la Renaissance. Mais le chant d'Alfred Deller, par exemple, ses voix un peu exotiques, un tout petit peu, voilà. Dans d'autres pays, comme Amsterdam, qui était la Mecque pour beaucoup d'adeptes de musique ancienne, la voix était carrément, littéralement, tout simplement écartée, inconnue. Léonard avait très peur, comme Arnoncourt, de la voix. Ce sont les gens incontrôlables. Surtout en fait, quand on arrive à l'opéra, on ne sait jamais ce qui va se passer quand quelqu'un ouvre la bouche. On ne peut pas les contrôler comme un violon. Voilà. Oui, il y a des mille histoires à raconter. Je me souviens que Léonard se trouvait à Strasbourg. On lui a confié une production, enfin, le couronnement de Poppée. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas proposer quelques chanteurs pour la distribution. Et c'est Marie, enfin, sa femme, qui m'a dit oui, Outil est moyennement satisfait parce que elle vibre, la Poppée. Je dis, mais chaque individu sur la Terre, n'est-ce pas, a deux cordes qui vibrent. Je crois que Attis, pour revenir à Attis, Attis était révélateur grâce à cela. Que pour ces milieux baroques, enfin, qui étaient dominés par l'instrument et qui ont quelque sorte déterminé une sorte de fausse tradition vocale, ben nous, on a tout changé cela. Oui. Mais c'était peut-être cette insistance sur le côté linguistique de la musique. Quand quelqu'un nous dit, c'était Pierre Brossman, qui dit, j'aime William Christie parce qu'il fait en sorte que les chanteurs, n'est-ce pas, prononcent, et à distance, quand je suis là dans la salle, je comprends ma propre langue. Mais ça, c'est un compliment pour moi, enfin, qui est plus valable, enfin, plus important que tout le reste.
Le sommeil d'Atis de Jean-Baptiste Lully, c'était William Christie et les arts florissants. Merci à Flora Sternadel, Marie Grou, Yvan Charby et Valérie Lavalard. Je vous retrouve demain pour le cinquième et dernier volet de nos grands entretiens autour de William Christie.
À réécouter sur francemusique.fr.